Parler des femmes, c'est en dire du mal, quelque bien qu'on en pense.
Soyez fiers d'être curieux.
Et cela pour cette raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je crois qu'il est en vérité difficile à un auteur dramatique d'avoir sur les femmes une opinion justement équitable.
Sur RTL.
Tour à tour accusateur et défenseur, puisqu'une scène est un dialogue, il lui arrive parfois de faire triompher des idées qui ne sont pas les siennes.
Bonjour François-Xavier Testu, vous êtes avocat, professeur à l'université de Tours. Vous avez regroupé pour un livre publié chez Robert Laffont les méchancetés et autres traits d'esprit des artistes. Bienvenue à vous.
Bonjour Sidonie, bonjour Thomas. Merci
bonjour
de m'accueillir.
Alors on commence, on vient de l'entendre, hein, par un maître en la matière. L'esprit Vachard, il connaissait, c'est Sacha Guitry évidemment. Peut-être qu'on peut se situer, on est à quelle époque et surtout qu'est-ce qu'il représente Sacha Guitry dans le monde du théâtre?
Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans le monde du théâtre. D'abord il est fils d'un acteur célèbre, Lucien Guitry, des personnalités très fortes. Et il fera non seulement dramaturge, metteur en scène de théâtre, mais bien sûr, il fera également une carrière au cinéma, en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur, puisqu'il aimait beaucoup se représenter lui-même, comme on sait.
Mais oui, il a été marié 5 fois, toujours avec des actrices, notamment Yvonne Printemps. Alors, elle lui reproche un certain manque, on va dire, d'ardeur conjugale, et ça donne l'un des échanges d'amabilité les plus célèbres. Vous nous le racontez ?
Oui, effectivement, c'est une histoire connue qui fait toujours plaisir, si j'ose dire, enfin, du moins aux auditeurs. Et Yvonne Printemps, c'était la Madame Sacha Guitry numéro 2 sur 5. Ils sont restés mariés une quinzaine d'années. Et au bout d'un certain nombre d'années de mariage, elle finit par lui reprocher de ne pas être suffisamment actif au chapitre du devoir conjugal. Et Sacha, vraiment fatigué par l'ardeur de sa femme, lui dit « Quand vous serez morte, on pourra graver sur votre pierre tombale enfin froide. » Et elle ne se laisse pas démonter, elle rétorque, et sur votre tombe, cher ami, on pourra marquer enfin raide.
Ils veulent se venger après leur divorce. Qu'est-ce qu'il aura encore comme bon mot pour la qualifier?
Oui, effectivement, elle était finalement insatisfaite. Comme vous l'avez compris, elle alla se jeter dans les bras de Pierre Freinet en 1932, de mémoire. Je crois que c'est cette année-là que Sacha Guitry et Yvonne Printemps divorcent. Et quand on demandait à Sacha Guitry ce qu'il pensait d'Yvonne Printemps en définitive, il disait son sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond.
Peut-être que son problème à Sacha Guitry était qu'il parlait trop, allez savoir. Mais enfin, en tout cas, avec cette jeune femme, il y a aussi cette anecdote avec cette jeune femme avec qui Sacha Guitry vient de rompre. Elle lui dit quelque chose et lui répond autre chose. Et votre boulot, c'est de nous dire quoi.
Alors, oui, il faut tout de même que je me souvienne. Sacha Guitry, un homme à femme, avec élégance, on n'entrait pas trop dans les détails à l'époque. Ouais. Et donc, cette jeune femme qui aimait beaucoup Sacha Guitry, lui, il avait décidé de rompre, elle lui dit en larmes au moment de la rupture, « Dis-moi au moins, dis-moi qu'un jour tu me reviendras. » Et Sacha répond, « Un jour, peut-être, un jour, mais pas plus.
» Ouais, c'est d'une dureté absolue, mais bon, voilà, ça nous fait rire. C'est aussi ça, les piques et les méchancetés. Autre anecdote liée à Guitry. Alors là, il auditionne une jeune comédienne qui est à peine sortie du conservatoire. Donc on l'imagine pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme. Ça se passe comment?
Alors, elle auditionne devant Sacha Guitry qui lui fait jouer quelques scènes devant lui, et puis à la fin Guitry reste silencieux et la postulante lui dit quand même ça devait être une femme de tête dans son genre, une petite femme de tête, et elle dit je sais déjà maître que pour réussir au théâtre il faut à la fois du talent et du culot, et Guitry répond oui mon petit mais vous devrez vous débrouiller avec le culot seulement. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, dans le même genre de circonstances. C'est un autre monstre sacré, c'est pas Guitry, c'est Jouvet. Jouvet, professeur au conservatoire, qui auditionne une débutante. Et puis elle se met à déclamer son texte de façon très exagérée. Et puis, tout en suivant son texte, elle s'exclame à un moment donné « Ah, où suis-je ?» Et Jouvet répond de sa voix inimitable « Au conservatoire, mais pas pour longtemps. »
Voilà, c'est un délice. Du conservatoire. Vous publiez, François-Xavier Testu, le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit, c'est chez Robert Laffont. Alors, il faut s'imaginer, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait des pétomanes qui étaient célèbres hein, et qui remplissaient les salles de spectacle.
C'est bon de savoir que c'était un métier.
Ben oui, on ne sait jamais, ça ouvre des perspectives hein, si la radio s'arrête. Et que dit Sacha Guitry à propos du plus célèbre des pétomanes de l'époque ?
Alors effectivement, il y en avait surtout un, le pétomane, on employait l'adjectif défini à son sujet, qui avait, à raison, je ne sais pas, de particularités physiologiques ou un dysfonctionnement quelconque, il avait ce petit talent de société qui consistait à monter la gamme, en particulier grâce à son derrière, grâce aux facultés sonores de son derrière. Et quand on a appris à Guitry la mort du pétomane, Guitry dit « Ah, c'est la fin des haricots
ouais, ». Voilà. Alors, il faut
savoir aussi peut-être l'origine de l'expression « c'est la fin des haricots ». Généralement, elle est inconnue, cette origine. Enfin, elle est peu connue. C'était Thiers, Adolphe Thiers, donc le premier président de la Troisième République, qui était en train de dîner, et avec sa femme. Et il était comme souvent d'assez mauvaise humeur. Et il dit « Ah, ces haricots sont détestables ». Et à ce moment-là, il s'est renversé en arrière, puis il est mort de je ne sais pas quoi. Enfin, pas des haricots. Mais alors le bon peuple, qui aimait beaucoup à se gousser des hommes politiques déjà, ce qui est quand même une activité assez saine, a répandu cette formule « c'est la fin des haricots ». Voilà l'origine de l'expression.
Jean-Yann, c'est à vous.
Oh, ben, je veux bien donner mon tour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On me dira qu'il y a d'autres choses, si vous voulez. Il y a l'audiovisuel qui rend fou aussi. Il y a l'audiovisuel qui lave le cerveau. Il y a les discours politiques, il y a les meetings, il y a la presse, il y a l'information. Mais la voiture est le premier endroit où l'enfant doit pouvoir prendre conscience que ça va pas très bien.
Les curieux sont sur RTL.
Jean-Yann, voilà quelqu'un qui avait de l'esprit et qui savait manier la pique Vachard. Tiens, à propos des cravates de Lionel Jospin, voilà ce qu'il disait. Les cravates de Jospin, pour moi, c'est un mystère. On ne sait pas où il les trouve. Il doit les hériter. Il doit y avoir des types qui, en mourant dans la misère, lèguent leurs cravates au Parti Socialiste et Jospin les récupère. Voilà l'une des piques signées Jean-Yann. C'est pas mal.
On n'avait dit découvre... pas les vêtements, mais bon, tant pis.
Oui, c'est vrai. On découvre ces méchancetés, ces traits d'esprit des artistes avec l'avocat François-Xavier Testu. On va dire un mot d'Arletty maintenant, François-Xavier Testu. Et ça fait le lien avec Sacha Guitry, parce que Sacha Guitry lui fait une demande en mariage un jour. Elle n'est pas dupe, Arletty, c'est ça ?
Oui, alors elle avait tout simplement décliné l'offre. Et après, elle expliquait « je n'allais pas épouser Sacha, il s'était épousé lui-même ». C'est vrai que... c'est pas d'ailleurs vraiment une méchanceté. C'est une méchanceté sous-jacente, mais c'est joli comme formule. C'était pour souligner, bien sûr, le caractère totalement égocentrique du personnage de Sacha Guitry.
Arletty qui balance une pique à propos d'un autre très grand acteur de l'époque, c'est Fernandel. Alors, je crois qu'il était en bagarre pour un rôle, c'est ça, Fernandel ?
Oui, il y avait une forte compétition pour je ne sais plus quel rôle de cinéma. Et quand Arletty avait appris le résultat, c'est-à-dire que c'était Fernandel qui avait eu la place, elle dit, avec sa gueule de cheval, il était sûr d'être à l'arrivée.
On avait dit pas les vêtements, pas le physique non plus.
Enfin, après, c'est vrai qu'il reste
rien. Ah oui, mais après, il n'y a plus rien.
Non, on est d'accord.
On est bien d'accord. Bon, on va se faire plaisir un petit peu.
François-Xavier Testu, à propos de cheval, il y a aussi cette anecdote incroyable sur le tournage du Cavalier électrique. On est en 1979 et le réalisateur, c'est Sidney Pollack, réalisateur plutôt perfectionniste. Il doit tourner une scène de baiser entre Jane Fonda et Robert Redford. Ça fait rêver, non ? Ça se passe comment ?
Alors, il faut d'abord dire peut-être en deux mots ce qu'est Le Cavalier électrique, un bon film d'ailleurs. C'est l'histoire d'un cavalier de rodéo sur le retour, c'est Robert Redford, qui fait des numéros de cirque avec des guirlandes clignotantes sur son cheval. C'est pour ça que le titre du film est ainsi, Le Cavalier électrique. Et c'est un cheval magnifique. Et puis un jour, ce personnage, donc joué par Robert Redford, pète les plombs, comme on dit maintenant, il revient à des réalités plus profondes, il décide de s'échapper à cheval vers des terres sauvages où il relâchera son cheval. Et puis dans son équipée, il rencontre une journaliste dont il tombe amoureux, et c'est comme c'est Jane Fonda, on comprend qu'il tombe amoureux, et la journaliste proteste sa fuite. Bref, tout ça a été filmé par Sidney Pollack, le grand metteur en scène, qui, effectivement, comme vous l'avez dit, était à certains moments atteint de crise de perfectionnisme. Et en l'occurrence, il s'agit d'une scène où Robert Redford embrasse Jane Fonda pour la première fois dans le film. Tout ça sous les yeux du cheval. Et Pollack avait été précis, il avait dit « Je veux un long baiser à la fois intense et naturel ». Et alors les acteurs ont fait de leur mieux, mais alors la première fois ça va si vous voulez, mais à la 40e fois ça devait être un peu moins intense et naturel parce que Pollack, qui n'était jamais content, a fait refaire la scène 48 fois au total entre un jeudi matin et un vendredi soir. Alors ça finissait par amuser les machinistes, mais il y avait là, comme d'habitude, un représentant des studios, de la Metro-Goldwyn-Mayer, je ne sais plus qui était le producteur, et lui, le représentant des studios, ça ne l'amusait pas du tout, parce qu'il était avec sa calculette, il faisait son calcul au fur et à mesure, en ajoutant au coût de 2 journées de production le cachet supplémentaire des acteurs, et il était arrivé à cette conclusion que les 48 baisers avaient coûté 280 000 dollars. Et pour conclure, il va voir Pollack, il dit « ça aurait été moins cher si Redford avait embrassé le cheval ».
Mais ça nous aurait fait moins rêver quand même.
Bah voilà.
Oui. Bah oui.
Fedot aussi, Denis, il faut raconter Fedot. Après.
Oui, on va raconter Fedot. Alors ce Georges Fedot, cet auteur incroyable, drôlissime, qui avait un peu perdu la boule, il était très... Il avait la dent dure aussi, notamment avec les jeunes comédiens, les jeunes acteurs un peu bêta.
Oui, bah, il était dur avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y avait un jeune acteur qui n'était pas très malin. Mais enfin, vous avez des gens qui sont pas malins, qui font de très bons acteurs. Donc c'est un autre sujet. Et il confiait un jour à Fedot, depuis avant-hier, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Et Fedot lui dit, ah vraiment? Et elle ne s'ennuie pas toute seule?
C'est merveilleux. Ça donne envie d'être méchant, franchement. Et qu'est-ce qu'il dit à un autre auteur prétentieux
qui
vient
de faire
un four
à notre gamme,
avec sa nouvelle pièce?
Ah oui, alors effectivement, il faut que je me souvienne. Oui, c'est ça. Cet auteur dont la chronique n'a pas retenu le nom d'ailleurs, mais c'est raconté par, enfin, c'est une histoire vraie qui est racontée par un autre auteur de théâtre dans ses mémoires. Et donc cet auteur malheureux, il se consolait après le grand échec de sa pièce qui était tombée dès la première, et il fait remarquer à Fedot, en tout cas, je n'ai pas été sifflé. Et Fedot lui dit, bah c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut pas bailler et siffler en même temps.
RTL.
Vous appelez ça le carlisme, non, vos phrases? Moi, j'appellerais, c'est les autres qui donnent ce nom.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous récidivez, car le 6 décembre à Hambourg, oui, vous faites les métiers d'art à la sublime.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais ça partout en plus, pas seulement à Paris.
Il n'y a qu'en Grèce, on n'a pas pu aller parce qu'ils ont refusé de nous louer leur patrimoine.
Peut-être pourquoi on ne voit pas à quel point c'est un mauvais état.
Oh, il est d'une méchanceté.
Quand Karl Lagerfeld tacle la Grèce, il aimait bien être un petit peu méchant, mais il avait beaucoup de talent, on lui pardonnait beaucoup de choses. C'était sur le plateau de Thierry Ardisson, vous l'avez reconnu. C'est jour de vacherie dans la curiosité sur RTL. Les artistes se lâchent, se vannent, ils ont la dent dure. Et c'est l'avocat François-Xavier Testu qui nous raconte. On va parler maintenant de cet homme qui nous manque pour ses créations, ses collections et ses répliques vachardes aussi. Vous en avez quelques-unes de bonnes répliques vachardes de Karl Lagerfeld en mémoire?
Par exemple, il y a le fait que Lagerfeld n'aimait pas du tout les robes du couturier Emilio Pucci, qui conçoit, vous savez, c'était un des maîtres à l'origine du pop art, et il conçoit dans cette maison de couture, parce qu'il est mort maintenant, Pucci, des vêtements avec des imprimés qui sont très marqués. Et un jour qu'on interrogeait Lagerfeld sur un autre sujet, le sujet des tatouages, il dit « Ah, je pense que les tatouages sont horribles, ce serait comme porter une robe Pucci toute sa vie.
Oh. »
Oui, il y a aussi il pouvait être très dur avec ses concurrents. Il dit, ça c'est du Lagerfeld aussi. Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Voilà, ça c'est du Karl Lagerfeld dans le texte.
Oui.
Alors, il raconte aussi une anecdote qui date de l'époque où il travaillait chez Balmain, parce qu'évidemment, il a fait ses armes chez d'autres grands couturiers. Ça concerne, je crois, François-Xavier Testu, la mère de Balmain. Racontez-nous.
Oui, alors ça, j'ai entendu Lagerfeld un jour raconter ça. Il avait quitté Hambourg à l'âge de 16 ans parce qu'il avait décidé justement de faire sa carrière dans la mode, et Paris, c'était le meilleur endroit pour ça. Il s'était engagé chez Pierre Balmain. Pour camper un tout petit peu le décor, il faut savoir que après la Révolution russe, il y avait beaucoup de dames russes, quelquefois des grandes duchesses, etc., qui étaient employées chez les couturiers français, donc depuis les années 1920, mais ça a duré jusque dans les années 1950. Et elles occupaient souvent, du fait de leurs compétences, le rang de première, comme on dit, ce qu'on appelle la première dans la haute couture, c'est le plus haut rang parmi les couturières de l'atelier. Et donc, Lagerfeld raconte, il était chez Balmain, il était témoin de cette histoire, que la mère de Pierre Balmain, qui passait régulièrement à l'atelier, elle dit un jour, au détour de je ne sais quelle conversation, « Si jamais j'apprends que mon fils est homosexuel, je le tue. » Et à ce moment-là, il y a une vieille princesse russe qui était employée comme première, qui a dit « Feu !»
On va changer d'époque maintenant, François-Xavier Testu. On part au début du XXe siècle, rejoindre Tristan Bernard, romancier, dramaturge. Un jour, il se promène dans la campagne avec son fils, qui est âgé de 5 ans. Vous nous racontez la suite ?
Donc, il se promène dans la campagne, et puis il y a un troupeau de moutons dans un pré, et un mouton se met à bêler. Et le petit garçon dit à son père, dit au mouton plutôt, « C'est pas comme ça qu'on fait bêler. » Et Tristan Bernard dit alors à son fils, « Toi, mon garçon, tu seras critique dramatique. »
Et d'ailleurs, à propos de théâtre, Tristan Bernard sort du théâtre, il croise un ami qui arrive en retard. Ça donne quoi, leur échange ?
Oui, il était arrivé en retard, en fait, pendant la représentation, et l'ami dit à Tristan Bernard, « Tiens, j'ai raté le premier acte. » Et Tristan Bernard lui répond, « Rassurez-vous, l'auteur aussi.
» François-Xavier Testu, il y a une anecdote concernant Tristan Bernard et Sarah Bernard que vous vouliez absolument raconter, c'est quoi ?
C'est l'époque où l'on apprenait à Tristan Bernard la nouvelle activité de Sarah Bernard. Il n'avait, comme vous savez, aucun lien de parenté. Ils étaient d'origine juive tous les deux, mais leur nom ne s'orthographie pas de la même manière. Mais enfin, ils étaient de la même époque et puis évidemment très connus l'un et l'autre, gravitant dans le milieu du théâtre. Et Sarah Bernard, elle aimait, c'était un peu la mode à l'époque, à faire tourner les tables pour entrer en communication avec les esprits. Et quand on raconte ça à Tristan Bernard, il dit « Elle devrait faire parler son lit, ce serait tellement plus amusant.
» Allez, on a promis une anecdote qui concerne Elton John et Keith Richards. Alors, c'est Elton John qui répond à une interview. Et qu'est-ce qu'il dit du guitariste, du compositeur des Stones ?
Alors, oui, effectivement, on l'interroge en particulier sur son passé. Et il en vient à dire qu'il est heureux d'avoir arrêté la drogue et l'alcool. Et il ajoute, ce serait terrible de ressembler à Keith Richards. Il est donc le guitariste de Rolling Stones, comme vous le savez. Il est pathétique, on dirait un singe avec de l'arthrite qui essaie encore de monter sur scène et d'avoir l'air jeune. Alors, je respecte beaucoup les Stones, mais vraiment, ils auraient dû le virer il y a 15 ans. Et puis, c'est un trou du cul, je l'ai toujours pensé, je le pense depuis des années.
Bon, évidemment, Keith Richards va répondre. Il dit quoi, Elton John ?
C'est bien que ce sont surtout les journalistes, parce que je pense que Keith Richards n'aurait pas été forcément au courant. Je ne pense pas qu'il lise tous les matins les interviews d'Elton John. Mais les journalistes se sont précipités pour lui apprendre ce qu'on avait dit de lui. Et il a simplement répondu, « Elton est une adorable vieille personne qui s'adoucit avec les années. »
C'est vrai que la
qualification d'Elton John grassouillé avec sa perruque, comme adorable vieille personne, c'est charmant.
Voilà. Ne faisons pas de mal aux vieilles dames.
C'est une pique qui n'en a pas l'air. Bien joué, Keith Richards. Merci beaucoup, François-Xavier Testu. Vous publiez, donc, je le rappelle, le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit. C'est chez Robert Laffont. À bientôt.
Merci, Denis Bonnec. Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.